Hello, ici Guéric de Ternay, le fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode, où je décode le nouveau monde de la mode avec des invités qui font bouger les choses. Aujourd'hui, je vous propose de faire le double clic sur le design, et notamment le design de sac. Et pour ça, j'ai invité Coralie Frick, la cofondatrice de la marque Vous pouvez dormir dans la grange. Coralie, bonjour et bienvenue dans Double Clic sur la mode.
Bonjour Guéric, ravi d'être là.
C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Et pour commencer, peux-tu nous présenter brièvement ta marque Vous pouvez dormir dans la grange?
Alors oui, donc c'est une marque qui a été créée par moi-même et mon associé Arnaud Lecan. Donc on est deux designers. On est vraiment rentrés par le produit, on va dire. On a développé un premier produit et suite à ce produit, on a décidé de l'auto-éditer. Et donc derrière, on a dû créer la marque. Et donc, c'est peut-être assez habituel comme démarche. Je sais pas, on a décidé de lancer une marque puis de créer le produit. Mais c'est vraiment le produit qui nous a petit à petit fait développer la marque.
Alors, quel était ce produit que vous avez imaginé?
Ah voilà, le premier produit, c'est un baluchon qui change de volume. Donc, on avait créé un sac qui s'adapte à son contenu. Donc, plus on a besoin de transporter des choses, plus le sac est grand en un seul geste. Donc, c'est un système qu'on a breveté. Et d'abord, on a cherché un éditeur. On voulait trouver quelqu'un qui serait intéressé par éditer ce produit-là. Mais on s'est rendu compte que c'était pas si simple. On tombait soit sur des personnes qui... Enfin, des éditeurs qui voulaient le faire, mais pas selon ce qu'on aurait imaginé, plus quelque chose de plus « cheap », entre guillemets, fabriqué en Chine. Et nous, on avait l'idée de quelque chose quand même assez haut de gamme, bien fait. Et donc, au final, on s'est dit « bon, allez, on se lance, on l'édite nous-mêmes ». Donc voilà, on a commencé par en faire une... Bien sûr, tout le développement produit, mais après, on a commencé par en produire 36 qu'on a vendus, et ainsi de suite. Enfin voilà, le début, c'était vraiment ça.
Alors pourquoi un baluchon? Pourquoi ce baluchon? Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce produit et de ce besoin de le créer?
Alors, l'idée, c'était vraiment d'avoir un sac qui s'adapte à nos besoins. C'était vraiment ça, l'idée. Et aussi, dans un esprit minimaliste, d'avoir un sac, finalement, qui peut remplacer tous les autres. On a un seul sac qui est accroché dans l'entrée. On peut s'en servir pour partir en week-end, on y met 35 litres quand même, donc ou même pour aller faire ses courses, il y a une poche ordinateur, donc aussi pour aller travailler, pour aller faire son sport. C'était vraiment l'idée d'avoir dans cet esprit minimaliste, de se désencombrer, d'avoir pas plein d'objets, mais vraiment un bel objet qui permet plein de choses finalement.
Est-ce qu'il y avait eu un moment déclencheur qui était à l'origine de cette idée, ou est-ce que c'est par observation de la façon dont les choses ont évolué en termes d'utilisation de sacs?
À la base, c'était dans le cadre de mon projet de diplôme. J'avais travaillé sur le sur-mesure. Et donc, c'est un peu comme ça que c'est venu, cette idée d'avoir vraiment un sac sur-mesure par rapport aux besoins. Voilà, c'était vraiment à la base du projet, c'était ça. Et très vite après, mon associé Arnaud a bien aimé le projet aussi. Et là, on s'est dit, bon, allez, on en fait quelque chose. Donc, le diplôme, c'était vraiment à l'étape d'un prototype fonctionnel, mais pas encore très esthétique. Et donc, derrière, on a fait toute cette recherche de matière, pour avoir des matériaux de qualité, tout un travail de finition et tout, parce que c'est vrai que dans la maroquinerie, les finitions, c'est très important, parce que le produit est assez simple de base. Et donc, voilà, on a mis 2 ans à faire des recherches pour avoir vraiment quelque chose qui valorise ce système. Et ça reste quelque chose de très simple quand on voit le sac. Ça reste quelque chose de très simple esthétiquement. Mais en fait, c'est compliqué parfois de faire des choses simples qui fonctionnent.
Je suis tout à fait d'accord. D'expérience avec Goudron Blanc et les t-shirts, on peut penser qu'un t-shirt, c'est simple. Et ça a été une expérience assez similaire où il y a une grosse recherche de trouver le très bon tissu et de trouver une très belle coupe. Et c'est vrai que quand on part dans les détails sur des objets assez simples en soi, on voit que le diable se cache vraiment dans les détails et que c'est là toute la complexité des choses. Et du coup, pour vous, donc, tu as fait une école de design, j'imagine?
Design produit, donc c'est que le design, finalement, c'est très large, ça touche plein de domaines. Voilà, là, c'est que on se retrouve plus dans des domaines de la mode qui, à la base, c'est pas ma formation première. Donc, c'est qu'on a dû tout apprendre aussi sur les matières, des choses. Enfin, c'est que la formation de designer, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, on n'est pas spécialisé. Donc, après, on se spécialise et c'est là qu'on apprend vraiment à mieux connaître un domaine.
Une fois que tu as créé ce prototype, tu dis que tu n'avais pas cette spécialisation dans la mode, dans le textile, dans les accessoires. Comment est-ce que tu en viens à en apprendre plus sur les matières, sur les codes de la mode, ce qui définit un produit comme ce sac que tu as voulu lancer?
Alors, je pense justement, ce qui est intéressant dans notre cas, c'est qu'on n'avait pas spécialement ces codes-là et donc qu'on a une approche complètement différente de personnes qui ont ces codes-là, en fait. On a essayé de trouver la bonne matière, celle qui est à la fois étanche, qui est souple. Mais donc, on était assez loin des codes typiques de la maroquinerie avec des boucles, des sangles, tout ce genre de choses. Et c'est peut-être ça aussi qui fait notre spécificité, je dirais, c'est que justement, on n'est pas dans ce domaine-là et donc, on va repenser les choses vraiment différemment que ce qui existe déjà. Et petit à petit, c'est vrai qu'on apprend. Après, au début, on s'est lancé très naïvement dans le projet, sans se douter, même par rapport à la vente et tout, sans se douter tout ce que ça représentait derrière. On s'est dit, on a un bon projet, un bon produit, il va se vendre. Et en fait, c'est petit à petit qu'on s'est rendu compte que, qu'un bon produit suffit pas, il faut aussi être visible parce que les gens tombent pas par hasard sur notre produit. Donc c'est qu'on a vraiment découvert tout ce monde-là de l'entrepreneuriat, de la vente, de la com, vraiment en faisant.
Vous vous retrouvez avec ce produit, vous l'avez fabriqué, tu as dit que vous en avez lancé 36 exemplaires pour commencer, en édition très limitée. Derrière, pour pouvoir vendre ce produit, il faut créer une marque. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer la marque? Vous pouvez dormir dans la grange.
Alors, on s'est inspiré. Alors, le nom, ça vient des hobos qui longeaient les voies de chemin de fer dans les années 30. Ils se laissaient des signes aux portes. Ils se laissaient des signes pour dire les gens sont accueillants ou chiens méchants. Ils avaient tout un langage comme ça. Et ce monde-là nous a inspiré dans l'idée de partir juste avec son baluchon et d'avoir tout le nécessaire un peu sur soi. Ce côté facile, un peu de qui permet de vagabonder, de voyager. Et donc, le nom vient de là. Faut dire aussi que on a pas mal cherché de noms et c'est vrai que beaucoup de noms sont déjà déposés. En fait, c'est pas évident de trouver un nom
C'est vrai.
qui est pas encore déposé. Donc au final, on est parti là-dessus. Ça nous faisait rire. C'est vraiment l'idée là de développer toute une gamme de produits qui permet justement cette vie en mouvement, cette vie où on va passer d'une activité à l'autre sans se poser de questions, faire des rencontres, voyager, voilà, offrir cet univers un peu de voyage, de tout est facile, tout est fluide, voilà, avec en même temps de la qualité.
Comment vous la faites vivre cette marque? Donc, au travers des produits, comment est-ce que vous travaillez sur tout le côté visuel de la marque, le côté sensoriel, pour vraiment incarner cette idée de vagabondage que vous avez en tête?
Alors, je dirais que d'une part, on a pris un très bon photographe pour faire nos photos du site, Linus Ricard, qui fait des photos comme ça de mouvement, qui est spécialisé dans la mode. Et c'est vrai que on a travaillé avec d'autres photographes hein, qui étaient très bien aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment important de tout miser sur des bonnes photos, je dirais, parce que c'est les photos qui font l'univers. Et là, c'est vrai que Linus est vraiment dans cet esprit de mouvement. Dans toutes ses photos, on retrouve le mouvement et tout. Et à la fois quelque chose de très surexposé, de très. Et donc ça, je dirais que les photos, c'est vraiment important pour l'univers. On a beaucoup misé là-dessus.
Tu parlais du fait que vous avez développé d'autres produits ensuite autour de cette même idée de vagabondage. Quels sont les autres produits qui sont vendus par votre marque?
Alors, il y a aussi le sac à dos. On s'est rendu compte que certaines personnes voulaient à tout prix un sac à dos. Et donc, on a lancé un second produit qui est un sac à dos qui a aussi pas mal d'avantages. Donc, le sac à dos et la sacoche, toujours très épuré. Il a la possibilité, donc on peut accéder à tout son contenu tout en le gardant sur l'épaule. Donc, très accessible et très organisé à l'intérieur. On peut le poser aussi, on a tout qui est très visible, poche ordinateur, des petites poches. C'était vraiment l'idée de repenser aussi le sac à dos pour en faire quelque chose de très fonctionnel parce que, pareil, on s'intéresse toujours aux problèmes liés autour des produits existants et notamment c'est que dans le sac à dos, on n'a pas bien accès au contenu, ça tombe au fond, c'est mis n'importe comment. Et donc, l'idée là, c'était vraiment de proposer quelque chose de très pratique et très, très esthétique aussi.
Et comment est-ce que vous prenez la décision de créer un produit ou un autre quand vous réfléchissez à votre collection et à votre gamme de produits? Quel est le type d'analyse que vous faites pour pouvoir en venir à vous décider de partir sur le sac à dos plutôt que de faire un sac banane ou de partir sur d'autres accessoires ou même des vêtements, etc.?
Alors, on part pas mal aussi de nos besoins à nous, je dirais. On est un peu dans cette vie aussi d'entrepreneur indépendant où on bouge pas mal, où on va justement d'une activité à l'autre. Et donc, on se pose la question de quoi on aurait besoin pour, par exemple, faciliter les déplacements. Et notamment, là, on travaille sur des draps de voyage, un peu dans l'idée, c'est quand on bouge beaucoup, qu'on va peut-être dormir chez des amis ou que on va dormir une nuit dans le train ou qu'on va dans un Airbnb où les draps sont pas forcément fournis, on est content d'avoir des draps qui sont très faciles à très légers à transporter et plus confortables, par exemple, que les sacs à viande qui existent déjà où on est tout étriqué dedans. Et c'est que on est toujours, c'est ça l'idée, c'est vraiment d'avoir des produits quand même confortables, enfin pour un mode de vie quand même où on est bien, avoir des beaux produits, mais à la fois très pratiques, très fonctionnels. Et donc là, on travaille sur des draps justement très faciles à transporter, qu'on peut prendre partout avec soi et qui s'adaptent à toutes les tailles de lit. Ou là, on travaille aussi sur des sandales pour l'été, pareil, qui tiennent bien aux pieds, qui soient très légère, toujours on est dans des produits unisexes aussi, donc voilà.
Donc vous partez en fait dans beaucoup de catégories de produits. Du coup, vous avez encore une fois une nouvelle façon de fabriquer ces produits que vous devez apprendre à chaque fois. J'imagine que vous travaillez beaucoup avec des partenaires, fournisseurs ou des ateliers pour pouvoir faire ce genre de choses. Comment est-ce que vous les découvrez?
Oui, ça, on part toujours d'un besoin. Après, on fait nos dessins, on fait nos maquettes, nos photos. Et ensuite, c'est là qu'on va à la rencontre des partenaires fabricants. C'est qu'on aime beaucoup ce côté-là, d'aller voir différentes personnes en France, différents fabricants, de voir comment les choses aussi sont faisables. Et on les rencontre principalement dans des salons. On fait le salon Première Vision, là, il y a tout ce qui est textile. Le salon au Carreau du Temple de la fabrication française, où il y a pas mal de fabricants. Et après, c'est un réseau aussi, petit à petit, on commence à connaître un peu les fabricants français. Ouais, c'est principalement comme ça. Il y en a pas mal qui sont référencés aussi sur le site Marque de France. Ouais.
Comment est-ce que vous faites pour justement les convaincre de venir travailler avec vous? Parfois, il y a des jeunes marques qui peuvent avoir des challenges de pouvoir convaincre leurs fournisseurs de prendre du temps, de faire des prototypes, parce que c'est pas juste arriver avec une idée, quelque chose de fait et dire voilà, est-ce que tu peux appuyer sur un bouton et lancer la production? Il y a un travail de calibrage pour eux. Souvent, le prototype qu'on a fait nous-mêmes, c'est pas la même chose que le prototype que eux vont faire parce qu'ils ont des contraintes de fabrication, ils ont des minimums de quantité à fabriquer. Comment est-ce que vous faites pour communiquer votre message et travailler avec eux?
Alors déjà, on arrive quand même avec des prototypes assez aboutis parce qu'on a un prototypiste à Paris avec qui on travaille, qui nous fait des belles finitions. Donc pour les sacs, on avait déjà fait des séries et ce qui permettait d'avoir quand même déjà un réseau et d'avoir des quantités. Donc c'est qu'au début, on faisait avec notre prototypiste à Paris qui pendant longtemps nous faisait vraiment la quantité qu'on voulait. Et c'est vrai que pour les ateliers, il faut avoir une certaine quantité qu'on a atteint peut-être aux 2 ans. Sachant que je précise, on a toujours gardé une activité à côté parce qu'en effet, de lancer une marque, ça prend du temps et on gagne pas tout de suite, on n'a pas tout de suite des revenus. Et donc, à côté, on avait notre agence de design où on travaillait en prestataire de services pour d'autres. On a toujours d'ailleurs notre agence de design. On essaie de passer de plus en plus de temps sur la marque, mais c'est vrai que ce qui nous a permis, nous, de tenir, c'est d'avoir une activité à côté qui était rémunératrice et de pouvoir donc se permettre de ne pas gagner d'argent au début sur cette activité-là.
C'est vrai que c'est une configuration qu'on voit assez fréquemment dans le lancement d'une marque parce que les revenus ne viennent pas tout de suite. Il y a surtout beaucoup de dépenses au départ.
C'est
Comment est-ce
ça,
que vous
ouais.
avez fait pour manager ces deux casquettes en fait, sans en avoir une qui prenait le pas sur l'autre, pour en fait trouver et dégager suffisamment de temps pour la marque?
Alors, c'est beaucoup une question d'organisation et c'est le point qui m'intéresse beaucoup d'arriver à être efficace sur le temps qu'on a. Honnêtement, ça n'a pas toujours été non plus évident de combiner les deux et d'avoir quand même beaucoup de temps qui est pris sur une activité qui n'est pas rentable. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, après petit à petit les choses, voilà, on apprend énormément de tout. Enfin, c'est une vraie expérience, je trouve, de lancer sa marque. On a énormément appris depuis le début et c'est hyper enrichissant. Donc je regrette pas ce choix, mais je dirais quand même que c'est pas un choix évident de voilà d'avoir une activité comme ça en parallèle, le temps que ça marche et qu'on puisse se payer aussi avec la marque.
Donc, quels sont les moments qui vous ont conforté dans ce choix de créer une marque? Il y a eu un moment particulier où vous vous êtes dit, allez, ça y est, là, on a vraiment eu raison d'investir tout notre temps. On sent déjà un début de succès ou alors on a vraiment beaucoup d'enthousiasme sur ce qui est en train de se passer.
Bon, c'est vrai que nos produits ont quand même un côté à chaque fois assez impressionnant quand on fait la démonstration, parce que les personnes ne s'attendent pas forcément à ça, notamment au volume du sac baluchon, ce système. Et pareil pour le sac à dos, à chaque fois qu'on fait les démonstrations, on a un peu l'effet des gens qui sont là, waouh! Et donc ça, c'est toujours très réconfortant. Et dans les salons, quand on fait le salon du Made in France chaque année, on vend quand même super bien. Donc on voit enfin que nos produits plaisent, et c'est ce qui nous motive à chaque fois de continuer de développer d'autres choses. Ouais, c'est ce qui fait qu'on est content de lancer cette marque, c'est satisfaisant.
Donc tu disais, tu as lancé cette marque avec ton cofondateur, Arnaud Leca. Comment est-ce que ça se passe de s'associer, de travailler à deux sur une idée, de lancer une entreprise ensemble?
Alors, on travaille bien ensemble. C'est qu'on travaille ensemble depuis la sortie de nos études, où on avait en parallèle l'agence de design et donc la marque. Et ça a toujours bien fonctionné, je dirais. On est assez complémentaires. On a une façon de s'organiser qui laisse vraiment pas mal de liberté à chacun. Donc on fait des points régulièrement, on s'appelle, on se retrouve pour travailler. Et donc voilà, ça s'est fait assez naturellement, où chacun a un peu fait des choses mieux, et du coup on fait chacun ce qu'on sait mieux faire.
Du coup, vous êtes divisé un peu les responsabilités comme ça, sans jamais vraiment poser les choses, parce que j'imagine qu'il y en a un qui doit réfléchir plus aux produits, vous ne pouvez pas être les deux constamment avec les fournisseurs. Comment est-ce que vous faites pour trouver le temps où chacun, en fait, a son propre rôle?
Typique pour la création de produits, c'est quelque chose qu'on essaie de faire un maximum ensemble. Et donc, si quelqu'un va peut-être lancer une idée, tiens, on pourrait développer ça. On se montre les dessins. On va se dire, tiens, ça c'est bien dans ton dessin. Ça, voilà. On va assez vite passer au test et prototypage. Donc, pareil, quelqu'un fait un premier proto, l'autre va avoir des idées d'amélioration, on va faire un autre proto. Il y a vraiment ça se fait vraiment avec beaucoup d'échanges.
Et tu nous le disais au début, c'est vrai qu'il y a une chose ultra importante, c'est de créer un beau produit, un produit que les gens aiment, tu disais même qu'ils sont impressionnés lorsqu'ils font les tests. Et ensuite, il y a un deuxième penchant assez important, qui est celui du marketing et de la vente. Comment est-ce que vous faites pour faire connaître la marque?
Alors, c'est qu'on a, pareil, on y allait vraiment à tâtons. On a appris en faisant. Ce qui marche bien, je dirais, c'est des collabs de communication. On essaie de mettre ça en place de temps en temps. Ou aussi des collabs sur des produits. Par exemple, on a fait par exemple une trousse avec Petit Carreau de Paris, qui est une marque chocolat, pour donner un exemple. Donc, on a fait une trousse qui permettait de ranger des tablettes de chocolat, qui est à la base notre trousse qui fait partie de nos accessoires qu'on propose. Donc, on a fait une collab avec eux, une trousse spécifique dans leur couleur et tout ça. Et donc, c'est que les collabs, je dirais que c'est quand même quelque chose qui marche bien, parce que ça permet de. C'est des budgets qui restent raisonnables, et chacun récupère un peu les. Enfin, récupère. Chacun communique avec sa communauté, son réseau, et ça fait quand même un bel échange de visibilité.
Et sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez une stratégie particulière, un canal privilégié, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram?
Alors, on est sur Instagram principalement, sur Facebook, mais on poste plus sur Instagram. Notre stratégie là, c'est de plus en plus, on se dit, il faut raconter l'histoire, raconter aussi notre projet de designer et tout, plus aller dans les détails, voilà.
Tu nous disais que vous avez fait un gros travail de photographie avec votre photographe. Est-ce que vous faites aussi ce passage à la vidéo? C'est vrai que quand on est sur Instagram, maintenant, quand on se connecte sur notre feed, on voit beaucoup de reels, beaucoup de vidéos. Est-ce que vous avez fait cette transition?
Ouais, pareil, justement, comme on se disait, il faut mieux raconter nos produits. Là, on est en train de faire des petits films où on présente un peu comme dans les salons nos différents produits, et on va tester ça aussi pour voir. Je dirais, on n'est pas expert de la com. Ça nous amuse de tester différentes choses. Aussi bien on a fait aussi appel à différents photographes qui nous ont fait des belles photos. On tâtonne un peu, mais voilà, on teste différentes choses.
De votre point de vue, qui est le client? Vous pouvez dormir dans la grange.
On s'adresse vraiment aux personnes qui cherchent des beaux produits de qualité, qui attachent de l'importance aussi bien à l'esthétique qu'au fait que les produits soient bien faits dans des bonnes conditions. Et voilà, notre cible quand même, c'est les personnes qui aiment bien bouger, qui aiment bien voyager, qui aiment bien travailler dans des cafés, enfin qui ont une vie un peu comme ça, en mouvement. Mais après, au final, on voit dans les salons, ça intéresse quand même pas mal. Enfin, quasiment tout le monde a besoin d'un sac à dos aussi, en quelque sorte. Donc, au final, ça intéresse quand même pas mal de monde. Mais notre cible, voilà, c'est vraiment les gens qui aiment bien un peu une vie improvisée.
Et où est-ce qu'on peut trouver les produits, vous pouvez dormir dans la grange?
Alors oui, on a un site internet, on les trouve sur notre site. On a quelques boutiques qui nous distribuent. On est au Bon Marché en France et au Magasin Général, le Magasin Général dans le 20e. Et après, on a un distributeur aussi qui a plusieurs magasins au Japon. Mais pareil, on a toujours ce problème qui est souvent le cas avec le Made in France. C'est un peu un souci de marge qui est souvent le problème pour avoir des distributeurs. Parce que on veut que nos produits restent accessibles. Et donc, quand on passe par des distributeurs, on va dire, pour l'instant, c'est plus pour l'image. Parce que, du coup, nos marges permettent, enfin, sont pas les marges que devraient être classiquement des marges dans la distribution.
Mais c'est vrai que les distributeurs prennent généralement à peu près 50%, 60, 70% de marge sur un produit vendu par une marque. Donc, du coup, il peut être assez difficile de pouvoir faire passer les coûts de marketing, les coûts de production, se payer également lorsqu'on est distribué en boutique avec des produits de bonne qualité et made in France.
Oui, c'est ça. Ils prennent en général 2,5, entre 2,2 et 2,5. Et donc très vite, avec la TVA et tout, ça fait produits très chers. Et nos produits devraient être plutôt autour de 400 euros si on incluait tout ça. Donc pour l'instant, on se dit on a la possibilité d'être en magasin. Ça fait pour les magasins des marges, ils peuvent pas avoir leur marge habituelle, donc ils doivent un peu rogner sur leur marge. Et nous, pareil, on fait pas des grosses marges, mais ça permet cette visibilité aussi en magasin.
Lorsque je suis allé me balader sur votre site, j'étais assez surpris de voir aussi que vous faites un fauteuil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de ce produit?
Alors oui, le fauteuil Amaka. Donc ça, on l'a fait dans le cadre, à base de notre agence de design. Il y a une personne qui est venue nous voir qui voulait remettre au goût du jour un fauteuil. Une chaise longue, en fait, c'était à l'époque inventée par son grand-père dans les années 60 et qui avait ce système de balancier. Et donc, on a été assez emballés par ce projet-là et on a développé ce fauteuil qui est donc un fauteuil qui se balance, qui est très confortable, qui peut être pour l'intérieur un coin lecture ou à l'extérieur au bord d'une piscine ou dans un jardin. Et on a mis plusieurs années à développer ce fauteuil et qui a été édité par Airborne, donc qui nous ont aidés pour faire tous les prototypes et tout ça. Et on a décidé de le mettre aussi sur notre site. Donc on est tout designer de fauteuil et aussi un des revendeurs d'Airborne.
Ce que j'adore dans votre démarche, c'est que vous avez vraiment le point de vue de designer. Quand on écoute votre histoire, vous travaillez vraiment comme des designers passionnés du produit, passionnés de l'esthétique, passionnés de la fonctionnalité, et vous cherchez vraiment à mettre tout ça dans vos collections. Et c'est très intéressant de voir cette approche comparée à d'autres approches qui peuvent être parfois orientées plus commerciales ou vraiment plus du côté de la mode, et d'avoir cette vision différente de comment est-ce qu'on crée un très beau produit et comment est-ce qu'ensuite on communique dessus et on le fait connaître.
Oui, c'est un peu ça. On se dit, il y a déjà beaucoup de produits sur le marché. On veut pas recréer une XM pantoufle ou bonnet ou éléments qui existent déjà. Donc, quand on crée un produit, on veut vraiment que ça apporte quelque chose de différent de ce qu'il y a déjà. Parce que dans le Made in France, on peut voir souvent quand même un peu des déclinaisons de produits qui sont bien faites en France. Mais c'est que nous, notre idée en tant que designer, c'est vraiment de dire, voilà, on propose pas juste un produit pour proposer un produit, mais vraiment parce qu'il apporte autre chose.
Vous voulez apporter cette touche d'innovation à des produits qu'on utilise au quotidien. C'est vraiment bien réussi.
Vraiment ce côté, avoir quelque chose qui est plus fonctionnel et élégant.
Comment est-ce que vous trouvez votre inspiration? Alors bien sûr, vous partez de vos besoins, mais ensuite, pour avoir une idée des fonctionnalités, d'esthétique, il faut aussi s'imprégner d'autres univers. Où est-ce que vous allez chercher cette inspiration?
Alors moi, j'aime bien m'inspirer en voyant aussi les matériaux. C'est quelque chose qui m'inspire. Quand je tombe sur une matière, par exemple là, on développe des sandales et on est tombé sur une matière un peu élastique qu'on trouvait intéressante, par exemple. Donc parfois, ça peut être en faisant des salons, voilà, des salons de matériaux et tout. Il y a des choses intéressantes et on se dit, tiens, ça peut être intéressant. Enfin voilà, j'aime bien avoir un peu une matériothèque en tête. Ça fait partie des inspirations parce que voilà, il y a un côté très intéressant aussi de partir de la matière. Et après, j'aime bien tout ce qui est scandinave, le design très minimaliste, très épuré. Tout ce qui est aussi très sain, à côté des matériaux sains, du bois, des choses naturelles. Et on va retrouver un peu dans nos créations un côté aussi des assemblages, notamment par exemple dans le fauteuil, justement des assemblages très, très simples. Tout est désassemblable, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de rien. Un côté voilà, sain, ça m'intéresse aussi.
Quelle a été l'une des grosses leçons pour toi au cours de ces dernières années d'entrepreneuriat?
Alors, je dirais qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on ne créait pas une marque comme ça, quoi. Que c'était plus long vraiment que ce qu'on aurait imaginé pour, et qu'il faut vraiment persévérer. Bon, beaucoup de personnes le disent, ça, qu'il faut persévérer. Donc, il faut aussi avoir la possibilité de pouvoir persévérer. Et donc, voilà, c'est qu'il y en a plein qui se lancent en espérant que ça va décoller vite. Et en fait, je me suis vraiment, nous, on s'est vraiment lancé naïvement et je me suis rendu compte que voilà, que ça mettait du temps et donc il fallait faire une activité à côté pour avoir ce temps.
Lorsque tu regardes en futur, dans cette année qui commence, est-ce qu'il y a un projet qui t'enthousiasme particulièrement pour vous pouvez dormir dans la grange?
Ah oui, là on a plein de projets. Je pense qu'on n'en a jamais eu autant en même temps parce qu'on a en même temps là le chapeau, les draps, les sandales. On travaille sur une banane. On a déjà C4. Ah oui, il y a la trousse de toilette qui est un peu moins prioritaire. On a vraiment beaucoup de projets qu'on aimerait sortir dans l'année. Donc, c'est assez enthousiasmant. C'est dans des domaines différents et chaque projet avance un peu à son rythme. Le chapeau, là, on l'a quasiment. Voilà, on l'a quasiment. Le drap aussi. Voilà, j'aime bien ce côté où il y a beaucoup de choses qui avancent en même temps et on va voir finalement lequel va aboutir le plus vite. On ne sait pas encore. Ça dépend aussi en fonction des fabricants, de tout ça.
Chez Goudron Blanc, on est très, très sur la concentration maximum, sur faire très, très peu de choses très, très bien. Donc, on a mis des années à lancer un premier produit qui n'était pas un t-shirt, qui était le polo. Aujourd'hui, on va bientôt lancer une surchemise, qui est un peu notre deuxième grosse innovation, on va dire. Tout ça, ça nous a pris plus de 10 ans, parce qu'on vraiment être très spécifique sur les produits qu'on lance. Comment est-ce que vous faites, ça m'impressionne beaucoup, pour pouvoir lancer une grande diversité de produits comme ça, tous d'un coup, travailler sur des choses qui sont vraiment différentes en termes de fabrication, en termes de matière, en termes de design, et pour pouvoir prioriser et réussir à avancer sur tous ces chantiers à la fois?
Mais en fait, je dirais que c'est un peu comme vous, on a quand même pris beaucoup de temps, parce que le fauteuil, on a mis 6 ans, le sac à dos, 4 ans, c'est beaucoup mon associé Arnaud qui a travaillé sur le sac à dos. Le baluchon, ça a pris aussi 2 ans au moins. Et le chapeau, là, ça fait quand même aussi... On voulait le sortir l'été dernier, mais on n'était jamais encore satisfait. Donc, au final, on a beaucoup de choses quand même en même temps, mais ça met du temps. Ça met du temps. Les draps, ça a été assez rapide, mais bon, ça fait quand même aussi 1 an et on a fait quand même 20 photos de draps qu'on teste. Donc, c'est juste qu'en ce moment, il y a plein de choses parce qu'on avait envie de commencer aussi sur les sandales. Mais pareil, en fait, les sandales, on a une maquette qu'on aime bien, mais ça se trouve, ça va sortir que dans 2 ans parce que le temps que vraiment on règle tous les petits problèmes, c'est aussi après, dès qu'on commence à aller plus en détail, qu'on se rend compte de certaines choses aussi à régler. Et le chapeau, on pensait avoir la forme, mais à chaque fois, on se dit ça pourrait encore être amélioré. Voilà. Donc, au final, je pense qu'on fonctionne un peu comme vous, où on met beaucoup de temps à sortir les produits.
Et c'est pour ça que du coup, vous avez plein de projets en même temps, parce que vous ne savez pas exactement à quel moment celui-là va se terminer. Donc, pour pouvoir être sûr que vous continuez à lancer de nouveaux produits, il faut commencer plein de nouveaux chantiers.
Oui,
et,
c'est ça.
Et avancer à leur rythme.
Oui, parce qu'il y a toujours des temps d'attente. Par exemple, le chapeau, on va donner tous les éléments à notre prototypiste. Ça va mettre peut-être 3 semaines jusqu'à ce qu'on ait le nouveau proto. Donc, entre-temps, on peut aussi avancer sur d'autres choses.
Comment est-ce que vous testez les produits?
Alors d'abord, on teste nous-mêmes. Et après, par exemple, on fait toujours des petites séries de 20 produits. Et il y a des personnes, souvent de la famille ou des amis, qui vont utiliser ces produits et qui vont nous faire des retours. Et donc là, on fait encore... Après, quand on est à ce stade-là, c'est déjà qu'on l'a bien testé, nous, qu'on est assez convaincus du produit. Et ensuite, là, par exemple, les draps, je les ai donnés à différentes personnes pour les tester, prendre les retours. Donc voilà, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, de lancer son produit, de lancer sa marque? Quel serait le bon conseil que tu aurais envie de leur donner pour qu'ils soient prêts à réussir?
Alors, ouais, je pense que c'est peut-être important, en effet, qu'il vaut mieux peut-être avoir qu'un produit, mais bien fait, bien nouveau, et communiquer beaucoup sur ce produit-là, plutôt que de vouloir lancer au début plein de déclinaisons et plein de... De commencer aussi par des petites séries quand même, parce que on peut vite se retrouver coincé, avoir des problèmes de trésorerie aussi si on fait des trop grosses séries qu'on n'arrive pas à écouler. De vraiment fonctionner par itération, voilà, tester, améliorer. Ouais. Et en effet, de se concentrer peut-être sur un produit au début, un bon produit, pour avoir des bons retours.
Écoute, Coralie, c'était vraiment un plaisir de t'avoir au micro de Double Clic sur la mode. Et merci de nous avoir raconté l'histoire de Vous pouvez dormir dans la grange. J'invite tous les auditeurs à aller sur votre site sur vouspouvezdormirdanslagrange.fr. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que de nouveaux épisodes arrivent bientôt et je suis vraiment impatient de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à Double Clic sur la mode. Et n'hésitez pas à laisser un avis pour me dire ce que vous pensez des sujets que j'aborde avec les invités. J'aimerais également vous parler un peu plus de Goudron Blanc. Depuis près de 10 ans, Goudron Blanc s'efforce de répondre aux attentes des hommes en quête de vêtements de qualité. À l'époque, en 2011, je m'étais rendu compte qu'il n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est cette idée de t-shirt idéal qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. Je voulais créer un t-shirt bien coupé, avec un tissu épais, ultra doux et des couleurs faciles à porter. Honnêtement, je suis très fier du résultat car nous recevons régulièrement des compliments des clients qui ont été conquis par la qualité des t-shirts. Mais assez parlé, le mieux c'est que vous alliez faire un tour sur notre boutique en ligne pour découvrir tout ça par vous-même. Rendez-vous sur goudronblanc.com ou cherchez Goudron Blanc sur Google.